Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il y a des émissions que l'on a un bonheur particulier à réaliser, celle de ce matin en est une. À l'occasion du centenaire de la mort du bienheureux Charles de Foucault, j'ai le plaisir ce matin de recevoir les petits frères de la moisson de Jésus Amour, une jeune fondation monastique de la famille de l'ermite de Tamanrasset, installée au fin fond d'une vallée des Pyrénées, au-dessus de Saint-Gaudens. À l'occasion de se plonger plus profond dans la spiritualité de celui qui voulait être le petit frère universel. Voilà pour cette émission Vivante Église, donc en direct de Saint-Gaudens, je reçois ce matin donc le petit frère Yann-Marie, vous êtes fondateur de la communauté des petits frères de la moisson de Jésus Amour, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et le petit frère Pierre-Marie, vous êtes frère de la communauté des petits frères de la moisson de Jésus Amour, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Alors avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, il faut préciser que vous n'êtes pas que deux dans la montagne, hein. Vous avez deux novices avec vous, peut-être vous pouvez donner leur nom,
petit frère Yann-Marie. Tout à fait, petit frère Siméon, qui nous vient de Belgique, et petit frère Joseph-Marie, qui vient de rentrer au noviciat. C'est-à-dire qu'il a reçu la vêture monastique le dimanche de la Divine Miséricorde.
Voilà. Alors, on donnera pas votre adresse exacte parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de monde qui monte dans la montagne, donc il faudrait pas que votre vie monastique en soit finalement trop dérangée. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Dans cette première partie d'émission, l'idée était de faire connaissance avec Charles de Foucault. Alors, on a fait une émission précédemment à l'occasion déjà du centenaire de la mort de Charles de Foucault, où on avait détaillé sa vie. Disons que là, on va aller plus vite puisque le thème de cette émission est la spiritualité de Charles de Foucault. Toujours est-il que Charles de Foucault est donc né le 15 septembre 1858 à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelque chose qu'on sait de sa vie familiale et peut-être du contexte ?
Alors, Charles de Foucault a eu deux grandes épreuves dans son enfance. À l'âge de 6 ans, à 6 mois d'intervalle, il a perdu sa maman puis son papa. Et donc il a été accueilli avec sa petite sœur par son grand-père maternel qui était très bon, mais trop tendre. Et qui n'éduquera pas Charles de Foucault comme il faudrait, qui fera qu'il se deviendra assez capricieux. Et à l'âge de 12 ans, il va y avoir l'invasion par la Prusse de la France, et notamment de Strasbourg. Donc ça va être l'exil, donc deuxième grande épreuve, deuxième douleur importante pour frère Charles. Il ne pourra pas y revenir. Il s'exilera d'abord en Suisse, puis à Nancy. Ensuite, à l'âge de 14 ans, il va faire sa première communion avec beaucoup de ferveur, mais peu à peu, parce qu'il a des maîtres neutres, et aussi à cause de lectures, de mauvaises lectures, il va peu à peu perdre la foi.
Alors, le jeune Charles de Foucault grandit, donc il passe son baccalauréat, on peut pas dire que c'était forcément un étudiant très studieux, toujours est-il qu'il finit quand même par se décider à préparer Saint-Cyr, et donc là, il est admis à Saint-Cyr, et donc commence une carrière militaire. Qu'est-ce qu'on sait de cette carrière militaire ? On sait qu'elle n'a pas été sans tumulte, c'était un peu amour des amours avec l'armée, et que ça a été, à l'occasion de ces années-là, des années tumultueuses, si c'est pas un peu dissolu.
Tout à fait, vous pouvez dire dissolu. Donc, frère Charles, on est même devenu obèse, et ses amis l'appelaient le porc. Frère Charles ne se couchait jamais sans mettre un bon verre de vin et de foie gras au pied de son lit pour pas avoir à se lever la nuit s'il avait besoin de manger. Donc tout son temps à Saint-Cyr a été tumultueux, et même quand il sera en garnison en Algérie, il va être renvoyé parce qu'il avait une maîtresse et il voulait pas lâcher sa maîtresse. Donc il lui a dit, c'est soit votre maîtresse, soit l'armée. Donc il quittera l'armée. Et en rentrant en France, au bout de quelques semaines, il va apprendre que ses camarades vont être dans le combat contre les rebelles. Et là, son sang fait qu'un tour, et il va demander son intégration de nouveau à l'armée. Et là, ça va être le sursaut. Il va se révéler un vrai chef. Il va faire l'admiration à la fois de ses supérieurs et de ses soldats. Et puis la guerre finissant, c'est la vie de garnison, et là il s'ennuie. Et donc il demande un congé sans solde qui lui est refusé, alors il démissionne, et il part explorer le Maroc, qui est interdit à l'époque à tout Européen, sous peine de condamnation d'espionnage.
Alors cette exploration au Maroc, c'est comme vous disiez, enfin, précédemment, comment dire, à l'armée déjà, il avait, comment dire, il avait montré peut-être un peu son vrai visage. En tout cas, on peut dire, aujourd'hui, on dirait, il explose. Des parents diraient ça. Il se révèle, en tout cas, il révèle qui il est et ce qu'il a dans le ventre. On dirait de manière peut-être un petit peu triviale.
Tout à fait, au risque de sa vie. Pendant un an, il va explorer le Maroc. Il va revenir avec des données scientifiques et géographiques sur le Maroc très importantes. Il va en faire un livre, Exploration au Maroc, qui va lui donner la médaille d'or de la Société de géographie de Paris. Il va devenir un explorateur célèbre, très célèbre. Il le fera donc sous le déguisement d'un rabbin juif, accompagné d'un vrai rabbin, parce que il fallait pas qu'il soit directement en contact avec les musulmans, qu'il l'aurait démasqué, qu'il aurait vu que c'était un blanc, un européen. Et donc, comme les juifs étaient traités comme des genres de deuxième zone, c'était la meilleure manière de se cacher à travers son déguisement. Mais le plus important, c'est pas cette médaille d'or.
C'est ce qu'il découvre en fait aussi.
Tout à fait.
À l'occasion donc, en fréquentant des musulmans.
Tout à fait. C'est la paix du désert. C'est dans son âme quelque chose va se passer. Le Seigneur va servir du désert et il va servir aussi de la contemplation, de la prière des musulmans qui s'arrêtent 5 fois par jour pour prier. Et aussi, ce qu'on oublie souvent, aussi de contempler ces juifs qui sont fidèles à leur foi malgré les persécutions des musulmans depuis le XVIIe siècle.
Alors, frère Charles, donc, on va dire, commence à cheminer, hein, comment dire, le Seigneur travaille son cœur. Et puis donc en 86, c'est l'année de sa conversion, donc il est revenu en France, à Paris, particulièrement dans une église, l'église Saint-Augustin, aujourd'hui qu'on peut visiter. Je ne sais pas s'il y a une plaque à l'église Saint-Augustin.
Si, dans la chapelle où il s'est converti, il y a toujours le confessionnal et il y a une plaque expliquant la conversion de frère Charles.
Alors vous allez nous l'expliquer, donc il se confesse à l'abbé Huvelin, voilà. Qu'est-ce qui s'est exactement passé pour cette conversion, on va dire, célèbre, presque aussi célèbre que celle de Paul Claudel?
Alors, quand frère Charles est rentré en France, déjà, il était attiré, poussé à rentrer dans les églises, et il disait au Seigneur, « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » Et un jour, sous les conseils de sa cousine, Marie de Mandy, il va aller voir l'abbé Huvelin, qui confesse, où il demandait des cours de religion catholique, mais comme il avait pris des cours d'arabe pour visiter le Maroc. Et quand il demande cela à l'abbé Huvelin lui dit, confessez-vous. Et il lui dit, mais père, je ne suis pas venu pour ça. Et le père le regarde avec une grande profondeur, une grande tendresse, et lui dit, mettez-vous à genoux, confessez-vous, et vous croirez. Et effectivement, ça va être une conversion instantanée à ce moment-là.
Alors, pardon, je fais une digression. Vous avez m'autorisé, je me tourne vers le petit frère Pierre-Marie. Vous accompagnez au monastère, en tout cas c'est ce que vous m'avez partagé en préparant cette émission, souvent des jeunes. Le fait comme l'abbé Huvelin, en fait, d'une certaine manière, adresse en fait un message, on va dire, fort et radical à ce jeune, est-ce que ça parle aussi aux jeunes? Je sais que vous accompagnez beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez parfois la même poigne ou la même radicalité dans la manière de vous adresser à tous ces jeunes?
J'espère qu'on le fait avec une grande tendresse. En tout cas, il y a un élément qui est important, c'est à la fois la confession et l'Eucharistie qui a converti frère Charles. Alors c'est vrai qu'au monastère, nous n'avons pas de petit frère prêtre pour le moment, mais on reçoit de nombreuses confessions, on peut dire. Et c'est vrai que les jeunes attendent une certaine fermeté, mais surtout une certaine vérité. Et je crois que c'est ce que frère Charles a trouvé avec l'abbé Huvelin.
Alors on continue, frère Charles, à partir de ce moment-là, en fait, l'abbé Huvelin va le suivre, si je ne me trompe pas, toute sa vie.
Tout à fait, l'abbé Huvelin va devenir son père spirituel.
Et il s'ouvre à lui, en fait, du désir de se consacrer à Dieu.
Effectivement, dès sa conversion, date sa vocation. Et donc il voudrait tout de suite s'engager, et l'abbé Huvelin va le faire patienter, et va lui demander notamment de partir faire un pèlerinage en Terre Sainte durant 6 mois. Et il y est allé par obéissance, il ne voulait pas y aller. Et c'est là qu'il va découvrir Nazareth, et la vie cachée de Jésus pendant 30 ans à Nazareth, et qui va marquer toute sa vie, ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité de Nazareth.
Alors, avant qu'il aille passer du temps à Nazareth, il rentre à la trappe.
Donc non, après.
Après, ah oui, heureusement
après,
que vous êtes
là. Après 3 ans, donc il va rentrer à la trappe Notre-Dame-des-Neiges pendant 6 mois. Et ensuite, il va partir 7 ans en Syrie, dans, on va dire, une filiale de l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, l'abbaye d'Akbès en Syrie. Mais peu à peu, dans ces années de cistercien, de trappiste, il va y avoir une poussée irrésistible vers une vocation plus radicale.
Alors, il s'en ouvre à l'abbé Huvelin, qui là aussi le freine, non ?
Au départ, l'abbé Huvelin le freine, lui demande de patienter, lui demande de rester dans cette vocation, mais c'est le père Huvelin qui lui-même va lui dire « Je sens qu'il y a en vous une poussée irrésistible, donc allez-y mon enfant, je vous ai fait attendre, mais allez-y, dites à vos supérieurs que je suis d'accord. »
Voilà, donc on sent en tout cas non pas l'impatience, mais peut-être le caractère extrêmement entier, le caractère de feu de frère Charles. Toujours est-il que donc il arrive à Nazareth, et là donc il passe du temps à Nazareth. On y reviendra plus tard dans cette émission, puisque de frère Charles, on parle d'une spiritualité de Nazareth. Qu'est-ce qu'il fait à Nazareth ? Donc il vit très simplement chez les Clarisses.
Il est ermite domestique des Clarisses de Nazareth. Il leur rend quelques petits services, mais essentiellement il passe des heures en adoration. Il passe des heures dans la méditation des Écritures saintes. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons 17 volumes de ces méditations, dont une grande partie ont été écrits pendant ces 3 ans à Nazareth. Et il cherche à mettre ses pas dans les pas de Jésus de Nazareth, c'est-à-dire vivre dans la Sainte Famille, être entre Marie et Joseph, au pied de Jésus.
Alors, je sais que ça vous tient à cœur, et c'est, je crois, à cette occasion aussi qu'il écrit une règle de vie monastique, si je ne me trompe pas.
Tout à fait. Il avait déjà écrit une petite notice à l'abbé Huvelin à la fin de sa vie de trappiste, pour lui manifester pourquoi il se sentait appelé à quelque chose de plus radical. Et c'est pendant ses 3 ans à Nazareth, en ermitage, qu'il va écrire sa première règle monastique. Et la première, c'est celle faite pour les frères. Et plus tard, à Milly Abbesse, il écrira celle des sœurs.
Donc, Nazareth, la période de Nazareth, en fait, prend fin. Et on a l'impression, quand on lit un peu sa vie, que c'est un peu à regret, en fait, quelque part. Mais il sent, quelque part, que le Seigneur le pousse à aller ailleurs, ou plus loin. Et là, donc, il va à Béni Abbès. Alors, dites-nous un peu le mouvement intérieur, peut-être.
Il le pousse, notamment, par la supérieure des Clarisses de Jérusalem. Tu lui parles de sacerdoce. Et va partir pendant 1 an à Notre-Dame-des-Neiges pour se préparer au sacerdoce. Et après, se pose la question, où vais-je aller ? Est-ce que je vais retourner en Terre Sainte ? Et finalement, il dit non, il faut que j'aille où Jésus n'est pas connu, où les âmes sont les plus délaissées. Et c'est là qu'il se tourne vers Béni Abbès, en Algérie, à la frontière marocaine, parce qu'il espérait un jour pouvoir évangéliser le Maroc.
Alors, il arrive à Béni Abbès. Dites-nous un peu comment est sa vie là-bas, en fait. Il vit de manière, en fait, très simple, assez isolée. Et puis, il est aussi très actif dans ses apostolats, et parfois même remonté face à certaines réalités, non ? Petit frère Pierre-Marie.
Dès que frère Charles arrive à Béni Abbès, il veut tout de suite y construire une petite fraternité. Et notamment, il y construit des cellules pour accueillir les futurs frères, parce que c'est vraiment ça qui le travaille. Et les frères ne venant pas, il ouvre sa porte effectivement à toutes les détresses qui sont autour de lui, à toutes les personnes, et il peut recevoir jusqu'à 100 personnes par jour.
Alors, je disais qu'il est engagé, on va dire, dans la vie locale, hein. Il se contente pas évidemment de prier, enfin c'est pas forcément évident. Entre autres, il est scandalisé par la présence de l'esclavage. Est-ce que vous pouvez en dire un mot, peut-être, de la réalité de l'esclavage à l'époque ? Et puis ce frère Charles qui prend position, en fait.
Tout à fait, il prend position, il demande même à son évêque d'intervenir au niveau des autorités françaises. Il dit, sur le fronton de vos mairies, il y a écrit « Fraternité, liberté, égalité ». Et vous condamnez le vol d'un poulet, comme il dit, et vous ne condamnez pas le vol d'un enfant. Donc il a été très virulent, mais on va lui demander de se calmer si les autorités françaises n'apprécient pas ces interventions.
Il va jusqu'en racheter 4 d'entre eux,
c'est ça ? Il va en racheter 4, tout à fait. Dont Paul, qui va rester son serviteur, ami et serviteur, jusqu'à sa mort.
Alors, donc, hélas, c'est pas d'abord une émission sur la biographie de frère Charles, même si en parcourant sa spiritualité, évidemment, on pourra approfondir certains passages de sa vie, là, qu'on fait assez rapidement. Après, donc, évidemment, il y a Tamanrasset. Alors, dites-nous comment il arrive à Tamanrasset.
Alors, c'est par le général Lapérime, qui était un grand ami de Charles de Foucault, qui devait faire une tournée d'apprivoisement des Touaregs. Vous savez, ces hommes en bleu, vous drapez de bleu. Donc, et il propose à frère Charles de l'accompagner dans cette tournée d'apprivoisement. Et il en fera 2. Et à la deuxième, il demandera à la Ménocale, c'est-à-dire le chef des Touaregs, si frère Charles peut venir vivre au milieu d'eux. Et la Ménocale va accepter la présence de frère Charles parmi eux. Et donc frère Charles va vivre tout seul, seul Européen, seul chrétien, à des centaines de kilomètres.
Alors, Tamanrasset, on peut pas raconter tout ce qui s'est passé à Tamanrasset. Peut-être qu'on peut parler d'un épisode, même si vous y reviendrez peut-être. C'est le moment, en fait, où il tombe malade et où, à son tour, il a besoin, en fait, des populations locales, parce que c'est peut-être un passage clé dans sa vie spirituelle. Petit frère Pierre-Marie.
Effectivement, le frère Antoine Châtelard en parle beaucoup dans Les Amitiés avec Charles de Foucauld. Et Charles de Foucauld se voulait vraiment être le frère universel, être très proche des Touaregs. Et à ce moment où il tombe malade, où à cause de la sécheresse, il n'y a plus une goutte de lait, et les Touaregs, à ce moment-là, vont récolter le lait qu'il va rester pour lui sauver la vie. Et à ce moment-là, comme vous dites, il y a vraiment un virage, puisque frère Charles rentre dans la réciprocité de l'amour.
Est-ce que vous deviez développer un tout petit peu, même si on y reviendra peut-être, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que frère Charles découvre peut-être à ce moment-là?
Eh bien que peut-être que pour donner jusqu'au bout, il faut aussi accepter de recevoir de l'autre.
Alors, on y reviendra, évidemment, peut-être pour finir cette première partie, évidemment, ça, c'est pas peut-être, même sûrement, sa mort, donc le 1er décembre 1916, il a toute sa vie, quelque part, pas aspiré au martyr, en tout cas, c'était présent dans son esprit, et là, il meurt martyr, est-ce qu'on peut dire qu'il meurt martyr? Comment alors, il meurt-il, petit frère Yann-Marie?
On dira qu'il est mort assassiné, parce que pour dire qu'il est mort martyr, ça voudrait dire qu'on lui a demandé de renier sa foi. Donc, frère Charles, c'était la Première Guerre mondiale. Il savait qu'il était éventuellement en danger, mais il a voulu, par amour des hommes, des Touaregs, rester parmi eux, aussi pour les protéger. Donc, il avait fait construire un fortin où il avait transporté son ermitage. Et des rebelles sont venus le prendre en otage. Parce que tant que frère Charles était présent parmi les Touaregs, les tribus Touaregs ne pouvaient pas se révolter. Il avait une telle ascendance, un tel aura sur les Touaregs. Donc le but, c'était de prendre en otage. Malheureusement, au moment de la prise d'otage, deux militaires français sont arrivés. Et donc il y a eu de la panique, et le jeune qui le gardait a paniqué et a tiré à bout portant sur frère Charles.
Voilà, et lui qui a vécu aux côtés des musulmans est mort, dans sa mort, il s'est retrouvé même à côté de musulmans. Non, j'avais lu ça en préparant l'émission, c'est-à-dire qu'après il a été mis dans une fosse en fait avec des musulmans tués aussi.
Non, il n'y avait pas d'autres musulmans, non.
Bon, oui, heureusement je descends à Saint-Gaudens.
Non, tout à fait. Par contre, c'est le général Lapérine qui demandera dans son testament d'être enterré à côté de frère Charles, et quand il mourra dans un accident d'avion dans le désert, le corps du général Lapérine viendra se mettre à côté de celui de frère Charles.
Alors on fait une première pause musicale, et puis après on va s'intéresser à une partie de sa spiritualité, qui est donc la spiritualité de Nazareth, et à la place que l'Eucharistie avait dans la vie de frère Charles, qui peut évidemment, spiritualité qui peut parler à tout à chacun.
Car notre Dieu est sans repos, tant qu'il ne demeure pas de nous. Bien, Seigneur, car notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure pas de nous. Mais mon cœur fait, et j'entends le Seigneur qui m'appelle. Notre cœur est sans recul et sans tant qu'il demeure loin de nous. les condamne, comme un jour le pardonnesse.
Et toi, et
tu me réponds, tu me réponds, comme un jour le pardonnesse.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà une émission ce matin Vivante Église en direct de Saint-Gaudens sur la spiritualité de Charles de Foucault à l'occasion des 100 ans de sa mort. Ce matin, nous avons la joie d'accueillir les petits frères de la moisson de Jésus-Amour, donc ermites, moines missionnaires, donc de la famille de Charles de Foucault. Je ne sais pas si vous me corrigerez si c'est pas exactement l'intitulé. En tout cas, nous sommes avec le petit frère Yann-Marie, qui est donc fondateur de cette communauté, et le petit frère Pierre-Marie, frère de cette communauté, où ils sont pour l'instant 4. Alors, la spiritualité de Nazareth et la spiritualité, on va dire, spiritualité dans laquelle l'adoration eucharistique a une grande place. Vous l'avez dit plusieurs fois au début de cette émission, Charles de Foucault, très rapidement, a été comme habité, alors pas hanté, par le désir de prendre la dernière place, comme Jésus a pris la dernière place. Alors, qu'est-ce à dire ? C'est peut-être la, je sais pas, la note la plus importante de sa spiritualité. Qu'est-ce qu'il avait dans le cœur ? Qu'est-ce que disent les écrits de Charles de Foucault là-dessus ? Petit frère Pierre-Marie.
Bien, ce qui reste dans le cœur de frère Charles, c'est cette homélie de son confesseur, l'abbé Huvelin, qui dit à un moment donné « Notre Seigneur Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir ». Et on pourrait dire que frère Charles a essayé de ravir cette dernière place tout au long de sa vie à Jésus.
Alors, du coup, ça a pris évidemment enfin une forme particulière, le fait qu'il aille à Nazareth, entre autres. C'est pareil, son passage à Nazareth, ou quand il a décidé d'aller à Nazareth, on imagine qu'il était habité par ça. Qu'est-ce qu'il a voulu vivre exactement, et comment il s'y est pris pour avoir la dernière place, petit frère Pierre?
Alors déjà, il avait un accoutrement qui voulait être celui de la dernière place, qui faisait que les enfants à Nazareth se moquaient de lui, lui jetaient des pierres. Voilà, c'était l'abjection.
C'était en quelque sorte le gardien, en fait, ou le il était quoi, il était gardien ou jardinier à Nazareth, c'est ça?
Disons un tout petit peu jardinier, un petit peu sacristain, mais beaucoup le priant, et l'Église l'a reconnu comme un saint déjà à l'époque.
Voilà, donc il vivait de manière en fait extrêmement effacée, et il acceptait l'humiliation qui allait avec le fait qu'il prenait la dernière place.
Oui, je dirais qu'elle le réjouissait quelque part.
Alors, le but de cette émission, évidemment, en vous invitant, c'est aussi de faire peut-être des parallèles avec votre vie. Donc vous, je disais en introduction, vous êtes dans la montagne au-dessus de Saint-Gaudens. Comment est-ce que vous essayez de vivre cette spiritualité de la dernière place ? Qu'est-ce que ça veut dire peut-être pour les petits frères de la moisson ?
Bien, en reprenant la parole du pape François, on pourrait dire que nous sommes à la périphérie, puisque nous sommes vraiment à l'extrême sud du diocèse, coincé entre la frontière de l'Espagne et de l'Ariège. Rien que la situation géographique montre quelque chose, et c'est vrai que c'est le retrait aussi du monde pour vivre dans le silence, la prière, mais aussi l'accueil spirituel de toute personne venant vivre un temps de prière, de retraite ou d'accompagnement au monastère.
Frère Charles voulait qu'on s'appelle petit frère, par humilité, pour être accessible à tous. Et on le contemple d'ailleurs que la manière dont les gens d'une grande simplicité nous interpelle, nous parle, il y a une grande simplicité, un esprit de famille spontané qui se fait entre les gens et nous, par cette petitesse.
Est-ce que sur le fait qu'il veuille prendre la dernière place, il y aurait quelque chose à ajouter ? Alors, en tout cas, il a pris, si j'avais bien compris aussi, il choisissait le nom de petit frère, parce qu'il se considérait être le petit frère de Jésus aussi.
Tout à fait. Donc, je disais tout à l'heure, il vivait entre la Sainte Famille, c'est-à-dire entre Joseph et Marie, au pied de Jésus, pour être petit frère de Jésus. Le petit frère de Jésus. Et chacun d'entre nous, nous avons à vivre comme des petits frères de Jésus. D'ailleurs, vous aussi.
Moi aussi, oui. Et il y a du travail. À Nazareth, la spiritualité de Nazareth, c'est aussi de vivre, alors vous l'avez un petit peu dit, mais donc c'est de vivre une vie cachée. Alors à quoi ça sert, entre guillemets, quel est le sens de vivre une vie cachée? Qu'est-ce que ça dit de profond de la vie chrétienne? C'est vrai que souvent on est habitué à des vies apostoliques, à des vies missionnaires, à des vies, voilà, on va dire, d'engagement et d'action. Là, c'est une vie, on va dire, cachée, discrète.
Alors pour frère Charles, il y a trois phases, entre guillemets, dans la vie de Jésus. La phase publique, il s'en sentait incapable, c'est-à-dire la phase apostolique, on va dire, la phase des 40 jours de jeûne, de désert, où il se sentait incapable, quoique, quand on connaît la vie de frère Charles, il avait une grande ascèse, et donc il disait, ben, moi, le Seigneur m'a donné sa vie cachée de Nazareth pendant 30 ans. Il dit que si Jésus aurait pu naître, pardon, il aurait pu arriver à 30 ans, il est Dieu, donc il aurait pu arriver sur terre à 30 ans, et s'il avait vécu caché 30 ans à Nazareth, pourquoi? Il dit, ben, c'est pour nous donner à vous et moi l'exemple de ce que nous devons vivre nous aujourd'hui, dans la simplicité de Nazareth, la simplicité, la sobriété.
Alors, vous dites que frère Charles était un ascète et qu'il avait une règle de vie, on va dire, difficile, enfin, féroce, on va dire. C'est vrai que, voilà, c'était pas, comment dire, il se contentait pas de buller, hein, à Nazareth, loin de là. Il avait une vie, comment dire, très, très priante. Vous dites même que, enfin, en préparant l'émission, vous m'aviez dit ça, que personne n'a jamais vraiment réussi à vivre la vie de frère Charles. Est-ce que vous pouvez en dire un mot, peut-être, de cette vie d'ascèse, même si c'est une vie discrète, silencieuse, lui s'imposait une ascèse féroce, on va dire.
On a souvent dit que frère Charles avait poussé à l'extrême dans l'ascèse pour réparer ses fautes passées. On pense davantage que plus on aime, plus on veut rejoindre le bien-aimé. Et le Seigneur Jésus, qui est Dieu, aurait pu avoir toute la gloire sur la terre, et il a décidé de vivre cette gloire, entre guillemets, dans la crèche et sur la croix. Et frère Charles, par amour de Jésus, mais aussi de ses frères les hommes, veut rejoindre Jésus dans cette abjection, dans cette ascèse permanente.
Alors l'ascèse dans la nourriture, oui, manger des bouillies que vous et moi on pourrait pas manger, ou rajouter des fois du sable, du poil de chameau dedans, mais c'est surtout l'ascèse de la veille. Voilà, il veillait beaucoup. Il demandait au Seigneur de le réveiller le plus tôt possible dans la nuit. Il pouvait se réveiller à 2h, 3h du matin et passer tout le reste de la nuit en prière.
Alors, justement, en prière et en adoration. Donc, l'Eucharistie a une place très importante dans la spiritualité de Charles de Foucault. Ça peut parler à un certain nombre d'auditeurs, puisque depuis quelques années en France, maintenant, il y a comme un renouveau de l'adoration eucharistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était la place de l'adoration dans cette vie quotidienne simple à Nazareth et puis après dans le reste de la vie de Charles de Foucault?
Petit frère, bien sûr, il faut unir l'Eucharistie dans sa dimension de célébration et d'adoration. Frère Charles a passé beaucoup de temps effectivement au pied de Jésus, parce que c'est vraiment la présence réelle de Jésus qu'il adore dans l'Eucharistie. À tel point qu'effectivement il était immobile et qu'on se posait la question, comment peut-il faire pour passer autant de temps sans bouger? Et dans une deuxième partie de sa vie, à partir de son ordination sacerdotale, bien sûr encore l'adoration eucharistique, mais aussi la célébration dont beaucoup de témoins au moment de sa béatification ont pu exprimer combien il avait un grand amour, une grande dévotion à célébrer les sacrements. Et il y a aussi cette période de désert où frère Charles étant seul, justement au désert, n'ayant pas de servant, il ne pouvait ni célébrer la messe, ni l'adorer. Et il obtiendra par la suite l'autorisation de Rome de pouvoir célébrer seul et enfin de pouvoir à nouveau adorer.
Petit frère Yann-Marie, sur l'adoration, sur la place de l'adoration, il y a des choses que vous voudriez ajouter ou préciser?
Oui, je vous disais tout à l'heure qu'il avait fait les deux tournées d'apprivoisement avec le général Apérine. Et dans ce journal de bord, mais aujourd'hui, pour la première fois, Jésus est venu dans ce village. Aujourd'hui, pour la première fois, Jésus est arrivé dans tel oasis, etc. Bon, oui, c'est important. C'est pas lui qui l'a porté, c'était Jésus qui l'a porté au Touareg, dans l'Eucharistie. Et pour lui, c'était sa forme d'évangélisation première. C'est Jésus, en adorant Jésus.
Une adoration, enfin, une évangélisation passive d'une certaine manière, qui est aussi le propre peut-être de la vie monastique, non? Est-ce qu'on peut faire un parallèle?
Tout à fait.
Mais petit frère Pierre-Marie,
on le voit bien aussi dans la vie apostolique, c'est vraiment Jésus qui agit. Si on pense que c'est nous qui faisons les conversions, on se trompe. Donc que ce soit dans le silence de l'adoration pour des moines, ou que ce soit dans la mission apostolique, c'est toujours Jésus qui agit dans les cœurs.
Alors, j'avais lu aussi, que on prépare l'émission, qu'il y avait un passage dans l'évangile qui particulièrement avait marqué frère Charles, c'est le lavement des pieds. et qu'il faisait un parallèle en fait entre l'Eucharistie et le lavement des pieds, considérant en fait que l'Eucharistie c'est une espèce de porche royale pour où on contemple en fait Jésus qui se donne et Jésus qui se fait serviteur. Alors est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous aviez lu ça ou pas? Est-ce que ça peut nourrir votre réflexion et méditation?
Ben, ce que l'on sait, c'est que Saint Jean, contrairement aux trois évangélistes synoptiques, ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie, il parle du lavement des pieds. Et bien sûr, cet amour du frère est tout à fait lié à cet amour de Jésus dans l'institution de l'Eucharistie. On peut pas dissocier l'Eucharistie et le lavement des pieds.
Alors, petit frère et Marie, pour cette spiritualité de Nazareth et de la place de l'adoration, il y avait d'autres choses qui étaient importantes pour frère Charles. C'est la place de la parole et l'obéissance au Père spirituel. Alors, place de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dans ce quotidien qui était celui de frère Charles à Nazareth et puis après à Béni Abbès et à Tamanrasset? Quelle était la place qu'avait la parole de Dieu?
Alors oui, il passait, je vous disais tout à l'heure, des heures en adoration, mais il passait aussi des heures en méditation de la parole, et il les écrivait. Il les écrivait pour lui, c'était son journal personnel, spirituel, et nous avons cette grâce qu'une grande partie de ses écrits ont été retrouvés et qui forment aujourd'hui 17 volumes et qui nous nourrissent aujourd'hui tous les jours. Voilà.
Vous voulez dire dans votre vie monastique?
Ah, tout à fait.
Vous lisez des méditations?
Tout à fait. Cette année, qui est l'année du centenaire, au matin, la deuxième lecture, il sort des considérations sur les fêtes liturgiques de l'année de frère Charles. Il dit que pendant un an à Nazareth, chaque jour, il faisait une méditation sur l'évangile et sur la fête du jour.
Alors, est-ce qu'il faisait, aujourd'hui, dans votre vie monastique, quelle place a la méditation de la parole de Dieu? Et qu'est-ce que vous pourriez dire à tout à chacun qui n'a pas, qui n'a pas eu le loisir ou la chance de monter chez les petits frères de la moisson?
La grande tradition monastique, c'est la Lectio Divina, c'est une lecture, une manducation quotidienne de la parole de Dieu, où le moine va prendre une demi-heure, une heure chaque jour de cette méditation de la parole de Dieu. Mais bien sûr, tout chrétien y est appelé.
Est-ce que vous qui faites beaucoup d'accompagnement spirituel, vous dites à vos accompagnés, même les jeunes, de commencer par la méditation de la parole de Dieu, d'installer ça dans leur vie, on imagine?
On ne peut pas passer du temps en prière, on ne peut pas passer du temps en adoration sans se nourrir, sans se nourrir complètement de la parole de Dieu et voir des cris spirituels qui vont commenter la parole de Dieu. Mais il faut de toute façon commencer par la source, la parole de Dieu elle-même.
Petit frère Yann-Marie, sur la place de la parole de Dieu, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter ou préciser?
Non, quand on a des retraitants en monastère, on les initie à une forme de lectio pour que ça passe de la tête au cœur. C'est la parole de Dieu, elle est vivante, elle nous parle à chacun aujourd'hui. Jésus, à travers l'écriture, c'est pas une parole qui a été écrite il y a 2000 ans. Il veut me dire à moi quelque chose aujourd'hui.
Alors, pour écouter la parole de Dieu, il faut aussi du silence. C'est vrai que moi qui ai eu la chance de venir passer du temps dans votre monastère, qui dit parole de Dieu dit aussi silence, il faut laisser résonner cette parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous dire quelque chose de l'importance peut-être du silence dans la vie de Charles de Foucault, ce que vous vivez vous, et puis ce que ça peut dire à tout à chacun, aux mères de famille qui nous écoutent, aux gens qui en général n'ont pas beaucoup de temps de silence dans leur journée? Petit frère Pierre-Marie.
Un père abbé disait à ses moines, prenez votre temps de prière le matin afin de vous laisser manger tout le reste de la journée. Et c'est vrai que notre levée matinale à 5h pour à l'arrivée à l'office à 5h30 à la chapelle nous laisse tout le temps du silence, sans téléphone, sans communication extérieure, une heure d'adoration où il ne va y avoir aucun dérangement extérieur. Et c'est vraiment ce moment-là que l'on privilégie, même si tout au long de la journée, bien sûr, on évite de parler, on évite de communiquer avec l'extérieur en réservant que quelques plages, pardon.
Même quand on fait la vaisselle, hein, chez vous, c'est important, ça peut inspirer même des familles, hein, de faire la vaisselle.
Oui, alors c'est pas faire silence pour faire silence, mais comme c'est écrit effectivement au-dessus de la plonge, c'est faire silence pour écouter ce que Dieu a à nous dire.
Alors, pour finir sur cette spiritualité de Nazareth, quid de l'obéissance au Père spirituel? Vous insistiez en préparant l'émission, il disait que c'était important, frère Charles en fait avait toujours été dans l'obéissance.
Tout à fait, frère Charles qui a eu plusieurs étapes dans sa vocation, l'a vécu en pleine obéissance. Parce que seul, on peut se leurrer. Et donc, il avait une grande obéissance de l'Église et donc de son Père spirituel. Et chaque étape, il fera vérifier que c'est bien de Dieu, par son Père spirituel, que le Père de son âme. Voilà. Et je voudrais rajouter quelque chose sur l'imitation de Jésus-Christ. C'est vraiment, mon frère Charles, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Avoir en tout temps les pensées de Jésus, les gestes de Jésus, les paroles de Jésus.
Sur l'accompagnement spirituel, vous pouvez peut-être en dire un petit peu plus. C'est vrai que c'est pas forcément courant ou compréhensible de tous les auditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire l'accompagnement spirituel ou le père spirituel? Ça peut parfois faire peur, on a l'impression qu'on remet complètement sa volonté dans les mains de quelqu'un. En quoi ça consiste et quelle en est, on va dire, la grande vertu, la grande sagesse?
Alors brièvement, je dirais que l'accompagnateur spirituel, son premier rôle, c'est de prier pour celui qui l'accompagne. Le deuxième, c'est contempler à travers l'ouverture du cœur de la personne comment le Seigneur s'y prend avec la personne et aider la personne à comprendre comment le Seigneur s'y prend avec elle et après de l'aider à voir aussi comment elle se laisse plus ou moins faire ou elle se débat plus ou moins.
Donc c'est comme un miroir en fait, c'est ça? Un miroir pour arriver à comprendre quelque chose de sa vie spirituelle ou un témoin de sa vie spirituelle?
Le simple fait que la personne se dise, elle s'entend parler d'elle-même, effectivement, l'accompagnateur spirituel va permettre à la personne de se dire et donc de mieux se comprendre et de mieux comprendre l'action de Jésus dans sa vie.
Ça n'a pas été sans importance dans la vie de Frère Charles, puisque vous disiez au début de l'émission qu'il avait un caractère, on va dire, peut-être impatient, en tout cas il avait des grands désirs, et l'abbé Huvelin a été là pour faire le tri d'une certaine manière.
Je dirais un tempérament passionné, radical et passionné.
Et donc la vertu de l'accompagnement, en l'occurrence, qu'elle a été...
Ah tout à fait. Sans l'abbé Huvelin, sans l'obéissance au père spirituel, il ne serait jamais allé à Nazareth.
Voilà, donc si vous aimez Dieu passionnément, il est urgent de trouver un accompagnateur spirituel, mais peut-être pas un petit frère de la moisson, parce que mon petit doigt m'a dit qu'ils étaient déjà bien pris. On va faire une deuxième pause musicale, et puis après on se plongera dans un des grands aspects de la spiritualité de Charles Foucault, la spiritualité de petit frère universel. Voilà, en direct de Saint-Gaudens ce matin, l'émission Vivante Église sur le thème la spiritualité de Charles de Foucault, avec donc des petits frères de la moisson de Jésus Amour, donc ermites, moines, missionnaires qui vivent dans la montagne, dans les hauteurs, au fin fond d'une vallée au-dessus de Saint-Gaudens. Donc petit frère Yann-Marie, vous êtes supérieur de la communauté, fondateur de la communauté des petits frères de la moisson de Jésus Amour. Et puis nous avons aussi le petit frère Pierre-Marie, qui est également frère donc dans cette communauté. Alors, je disais avant la pause, l'autre grande, comment dire, l'autre grand titre peut-être qu'on peut donner, grand label qu'on peut donner à la spiritualité de Charles de Foucault, c'est celle d'être frère universel. Il voulait être frère universel. Alors c'est peut-être pas le premier saint qui voulait être frère universel, on pense, quand on utilise ce terme par exemple, à Saint François d'Assise. Qu'est-ce que voulait dire cette expression et qu'est-ce qu'il avait dans le cœur peut-être quand il pensait à cela, petit frère Yann-Marie ou petit frère Pierre-Marie?
Alors, il disait, je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère universel. Bon, lui, c'était vraiment important. Et aussi, en voyant les hommes, il disait, fermons les yeux du corps. Ouvrons ceux de l'âme, voyons en eux ce qu'ils sont, non ce qu'ils peuvent paraître. Regardons-les comme Dieu les regarde.
Ce qui à l'époque était, enfin avec les musulmans, qui était assez nouveau, on peut peut-être en dire un mot, voilà, d'être à Taman Rasset quand on est autant brûlé par l'amour de Dieu et de vivre ça en silence et en reconnaissant en fait chez ses frères, ces personnes comme des frères, il y avait là quelque chose d'assez nouveau, d'assez novateur, petit frère.
Oui, tout à fait, c'est précurseur, c'est même, on dirait, prophétique. Et pourquoi il voulait créer des liens d'amitié pour les amener peu à peu à Jésus. Mais il disait, il faudrait du temps, il faudra longtemps. Moi, je commence à défricher. D'autres viendront semer, d'autres viendront récolter. Mais c'était vraiment une fraternité d'amitié, de confiance. D'ailleurs, il était vraiment devenu, pour eux, ils l'appelaient le marabout chrétien. Donc ça veut dire vraiment quelque chose d'important. Ils appellent un chrétien marabout. Et pour des musulmans, c'est très significatif. Il était vraiment devenu aussi l'ami de la Ménocale, le chef des Touaregs.
Mais son désir le plus profond, avec cette amitié, en les reconnaissant comme ses frères, c'est évidemment après de leur faire découvrir Jésus, de leur faire découvrir le Christ.
Il disait qu'ils puissent se dire, si le disciple est si bon, comme doit être bon le maître. Donc effectivement, il avait toujours. Frère Charles avait un souci des âmes. Il parle dans sa règle du zèle des âmes, de sauver les âmes.
Alors, petit frère Pierre-Marie ou Yann-Marie, je ne sais plus, la spiritualité du Sacré-Cœur. Voilà, vous-même, on ne vous voit pas parce que c'est la radio, mais vous êtes habillé en blanc, avec un habit monastique, avec un rosaire à la taille, accroché à une ceinture, et puis devant, sur votre scapulaire, non, sur votre... On appelle ça un scapulaire, vous voyez. Sur votre scapulaire, vous avez un beau Sacré-Cœur, donc un cœur rouge, avec une croix qui est comme plantée dedans. Qu'est-ce que c'est que cette spiritualité du Sacré-Cœur? Alors, certains auditeurs en sont familiers, et quelle place elle avait dans la vie de Charles de Foucault?
Je vais tout de suite commencer par le témoignage que je peux avoir lorsque je sors faire les courses. À peu près chaque semaine, les gens m'interpellent dans les magasins, dans la rue, ils me disent « qu'est-ce que c'est que votre symbole ?» Alors je dis, effectivement, c'est le cœur de Jésus. Alors ils me regardent un petit peu avec des yeux interloqués et j'essaye de leur faire comprendre effectivement que cette croix plantée dans le cœur de Jésus, donc c'est tout cet amour de Jésus qu'il a donné pour nous en acceptant de mourir pour racheter nos péchés sur la croix. Donc le cœur et la croix sont vraiment indissociables. Frère Charles, depuis tout petit, avait remarqué la grande dévotion de sa cousine au Sacré-Cœur et c'est elle qui le lui a fait aimer. Par la suite, quand il revêt cet habit blanc, il décide de coudre dessus l'emblème du Sacré-Cœur et il dit « Ce cœur écrit sur ma robe, il est là pour que je me souvienne de Dieu et des hommes pour les aimer. » Donc c'est vrai que lorsque l'on vit avec cet habit sur soi et avec ce cœur, il y a ce double amour que frère Charles voulait vivre, l'amour de Dieu, l'amour des hommes, c'est toute ma vie, ce sera toute ma vie, je l'espère.
Petit frère Yann-Marie, il avait donc une grande dévotion au Sacré-Cœur. Vous parliez de sa cousine, peut-être que ça vaut le coup de dire un mot de sa cousine, sans vouloir faire l'exégèse de la vie de frère Charles. C'est quand même une femme qui a eu une place importante dans sa vie.
Oui, notamment après le décès de ses parents. C'est une grande cousine qui est plus âgée que lui, et ça va devenir vraiment sa grande sœur spirituelle. Et tout au long de sa vie, au point même pendant son temps de noviciat, où normalement chez les trappistes, on n'écrit pas, frère Charles pouvait écrire et Marie de Mondy pouvait lui répondre. Et toute sa vie, il va y avoir une correspondance spirituelle entre ces deux êtres.
Alors, le Sacré-Cœur, Charles de Foucault s'est consacré lui-même au Sacré-Cœur quand il était plus jeune. Et puis, vous disiez, il a aussi consacré le Maroc au Sacré-Cœur.
Alors, effectivement, il a consacré le Maroc au Sacré-Cœur dans ce souci de l'évangélisation et que le Maroc puissent enfin connaître l'amour de Jésus.
Qu'est-ce que ça veut dire que se consacrer au Sacré-Cœur? Peut-être pour les auditeurs pour qui ça serait un petit peu étranger, est-ce que vous vous invitez aussi les gens que vous accompagnez ou les jeunes que vous accompagnez à se consacrer au Sacré-Cœur? Et qu'est-ce à dire?
La consécration, c'est se donner entièrement. Bien sûr, on amènerait les personnes à connaître le Christ, et c'est pour ça que les gens viennent au monastère, pour rentrer toujours plus dans cette intimité du cœur de Jésus. Nous n'avons pas une célébration de consécration, mais on en parlait tout à l'heure de la prière. Passer un temps chaque jour en prière, c'est déjà une forme de consécration à l'amour de Jésus, à son cœur.
Frère Charles parlait de consoler le cœur de Jésus. C'est très important, ça revient sans cesse dans ces méditations. Et donc, prendre des temps d'intimité avec Jésus, prendre des temps d'adoration au pied du tabernacle, c'est consoler le cœur de Jésus.
Ce que l'on peut dire aussi, c'est que les jeunes qui viennent au monastère, là je parle peut-être plus des adolescents, lorsqu'on leur fait des enseignements et que curieusement de temps en temps on regarde leurs notes, on voit des Sacré-Cœurs partout. Lorsque ces mêmes garçons de temps en temps nous écrivent pour nous remercier de telle ou telle chose que l'on a dite ou que l'on a fait avec eux, sur l'enveloppe et sur le courrier, il y a aussi un Sacré-Cœur. Alors on sent vraiment que le Sacré-Cœur touche.
Voilà, ça n'est pas que de l'imitation des petits frères de la moisson. Hein. Alors, dans cette spiritualité du frère universel, il y a autre chose, c'est l'esprit d'enfance qui va quelque part peut-être aussi avec quelque chose du Sacré-Cœur, hein, puisqu'on devient soi-même petit frère de Jésus, de Jésus Eucharistie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit d'enfance, on imagine ce que c'est, mais est-ce que vous pouvez repréciser, l'esprit d'enfance, c'est l'esprit d'abandon.
L'esprit d'enfance. Jésus, fils de Dieu, Dieu lui-même, tout puissant,